Vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde. Toutes nos émissions sont disponibles en balado via laplumedefeu.com. Aube, épisode 12.
Dans ce 12e épisode, Aube s'est intéressé à la transmission du savoir, à l'éducation sous toutes ses formes et à la communication.
Nous apprenons chaque jour, nous apprenons toute une vie, sur nous-mêmes et avec les autres.
Au sommaire, le mentorat, le compagnonnage en France.
Une entrevue dans une école à la pédagogie Waldorf.
Quelques vraies fausses pubs du gouvernement pour nous éduquer.
Le rôle du professeur dans la vie d'un étudiant.
Annick nous parle de la transmission du savoir avec hommage à l'homme violon.
Et pour l'instant, je laisse la parole à un vieux compagnon de route, présent à la toute première heure du projet Aube, qui ouvre l'émission avec la sagesse du conteur.
On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives, de prendre action simplement par une prise de conscience.
Votre mot-clé? Apprentissage.
Approchez-vous près du feu. La nuit se réveille, apportant une fraîcheur d'automne qui colore les joues et les oreilles. Venez, réchauffez vos corps et vos cœurs avec des paroles porteuses de sagesse. Les loups courtisent la lune pleine qui donnera naissance à la magie nocturne. Venez, les enfants, laissez vos jeux. Les lièvres que vous poursuiviez dorment. Venez, les hommes, les guerriers, pêcheurs et chasseurs. Laissez vos filets, vos flèches et vos lances. Reposez-vous, les frères, les pères, les maris. La paix règne dans la plaine. Venez, les femmes, cueilleuses, cuisinières, guérisseuses et jardinières. Laissez vos plantes médicinales, vos calebasses et vos pots de chevreuil. Reposez-vous, les sœurs, les mères et les épouses. Les foyers sont bien gardés. Venez, les anciens et anciennes, gardiens, chamans. Laissez vos souvenirs et réchauffez vos vieux os. Grand-père et grand-mère, les traditions sont respectées. Venez fermer le cercle où tous égaux, nous ne formons qu'un. Le grand manteau noir couvre nos épaules et le grand esprit veille sur nous. Les histoires que je vais vous conter viennent d'un autre temps. Ça fait tellement longtemps que les hommes blancs n'avaient pas encore mis le pied sur le continent. Ça fait tellement longtemps que le père et la mère du temps ne l'avaient pas encore mis au monde. Ça fait tellement longtemps que seuls les arbres et les montagnes s'en rappellent. Et heureusement pour vous, les arbres sont mes amis. Et ils m'ont conté ces histoires un soir de pleine lune autour du feu. Comme je vais faire avec vous, ici et maintenant.
Frère Ours nous a quittés le 18 août dernier à l'âge de 44 ans. Collaborateur de Aube de la première heure, de 2002 à 2008, et ami de longue date, je souhaitais lui rendre hommage en vous partageant l'introduction de son premier CD de contes que nous avions enregistré ensemble dans les studios de La Plume de Feu en 2004.
Ce n'est pas facile de nos jours, je vous le jure, d'amener aisément nos enfants à l'âge adulte. Et je le sais depuis que j'étais moi-même toute jeune et pure, que ce système n'est pas la meilleure catapulte. Je me souviens que pour ma part, dans mon vieux pays d'Europe, l'école a freiné sérieusement l'éclosion de mon être et de mes rares quelques talents latents. Après de sombres détours, c'est seulement après 30 ans que j'ai pu apporter quelque chose de valable à cette société. Publier sans aide 4 bouquins à l'étranger, c'est pas rien quand même. Avant ça, personne, surtout pas les profs ni mes pauvres parents, n'ont su détecter ce qui se cachait derrière la rebelle enragée. Une nature ardente, dévouée, passionnée pour les causes qui, bien sûr, lui paraissaient nobles et belles. De leurs critiques et rejets, j'ai failli en crever. Pour mon fils aîné, 30 ans après, ici au Québec, c'était pareil. En moins grave, on s'entend, grâce à ses parents veilleurs et une société plus ouverte. même s'il se cherchait encore, et c'est normal à 15 ans. Lui aussi était différent, intense et particulier. Étiqueté hyperactif et futur décrocheur, il s'est choisi très tôt une voie étroite, pleine de difficultés. Depuis toujours, il a su qu'il serait comédien. Même si dans ce métier, il y a peu d'élus pour beaucoup d'appelés, je lui souhaitais ardemment et le soutenais de tout cœur, car il avait le talent, la persévérance et la capacité de vaincre ses peurs. Avant ça, il lui a fallu réussir à traverser les mailles du filet, de la culture au budget si limité dans ce petit pays. 1% de francophones en Amérique, tous les créateurs ou presque ont faim. Contingence étroite et saturée, comme celle de l'écologie et de la santé. Le système d'éducation est saturé, engorgé, submergé à cause de nos propres ambivalences, leurs mauvaises priorités pourtant cuisantes en importance, même si les enfants sont de plus en plus rares. Pour cause d'inquiétude, d'austérité, les classes comme les cabinets et les couloirs sont encombrées. Les gestionnaires submergés, les cadres trop serrés dans leur budget mal distribué et l'ensemble mené à l'aveuglette et à court terme, comme en politique, à l'environnement, en agriculture. Même le gouvernement manifeste ses limites et son désarroi. Et pour l'école repensée, Fabienne, Virginie et 30 vies n'y suffiront pas. Bonnes intentions, credo et vœux pieux. Mais même pas les miens n'y changeront rien. À l'école comme ailleurs, les plus riches auront toujours les meilleurs services. Par contre, ce qui est vrai dans toutes les approches humaines, l'attention, la compassion, l'écoute et la personnalisation donneront toujours de meilleurs résultats que toutes les sanctions, les compressions et la répression. Sans pour autant négliger, c'est sûr, un peu pour nous rassurer, mais il leur faut de la méthode, de la discipline, de la suite dans les idées pour aider nos rejetons à équiper comme il faut leur bateau, qu'ils soient prêts à affronter les tempêtes de l'existence, mais à bien choisir leur île, rêver longtemps d'avance, y mener leur barque vers une belle vie à leur image et personnalité unique comme il se doit, par l'amour, le travail et le sens de l'interdépendance. Mais selon leur propre choix, vaille que vaille, ils iront où il faudra, sur le chemin de leur propre destin. Comme épilogue, je peux vous dire que notre fils Émile et sa sœur Zoé, tous les deux comédiens, sont en voie d'être reconnus pour leur grand talent. Ultime pied de nez envers les systèmes contingentés à la con. À bon entendeur, salut!
Texte et narration, Annie Schneider.
Cette idée folle, un jour d'inventer l'école.
Qui a eu cette idée folle, un jour d'inventer l'école?
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne. De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
De nous laisser dans la vie que les dimanches, les jeudis.
C'est ce sacré Charlemagne, sacré Charlemagne.
Je voulais partager avec ce 12e épisode sur l'éducation mon expérience que j'ai vécue avec CIBL. Mon premier contact avec CIBL, ça date de, je pense, c'est 1989 ou 1990. J'avais 13 ans à peu près. Je venais à tous les vendredis, je venais voir une émission un peu étrange, une émission qui s'appelle Le Buzz Show. Une émission qui était animée par Philippe Lagu et Bruno Blanchet. Il y avait Carlo Bellomo aussi, qui faisait la mise en onde, les montages, les radiothéâtres, l'humour. Il y avait un peu de tout. Il y avait des pubs, des fausses pubs, il y avait des parodies d'affiches ou de cinéma. Je me rappelle, il y avait tout le temps des personnages qui revenaient, exemple le gros Lucien ou Jack Laforêt, Claude Roulotte à la circulation. Bref, c'est une parodie de tout ce qui se faisait dans les autres radios commerciales. C'est un peu la réponse que CIBL envoyait à François Pérusse, qui de l'autre côté commençait lui aussi à faire de l'humour. Faisait beaucoup de, non, aussi de jokes sur les réseaux communautaires, un peu. Des fois, c'est parfois broche à foin. Là. Des fois, c'est des gens cafouillent, comme je fais en ce moment, dans des tricotés sous une thématique improvisée. Bref, j'avais 13 ans. Tous les vendredis, je partais de Repentigny avec mon petit ticket de boss. J'économisais mes sous. Je passais journaux. Je pense que c'était la presse à l'époque, à tous les matins. Bref, je m'en venais à CIBL avec ma gang de chums. On venait voir Philippe Lagu, Bruno Blanchet, Carlo Bellomo, live, directement à CIBL. Puis je me rappelle de ces vendredis soirs à aller regarder. On était comme les fans du boss show. C'est vrai que des fois, on entendait... Philippe qui criait dans le micro de 18h30 à 19h30, ça va être un autre buzz show! C'était nous autres qui étaient le buzz show qui gueulait en arrière, en background. On était là, fidèles au poste. Ça nous a beaucoup inspirés. Et je pense que c'est un peu aussi ça qui m'a donné le goût de faire des projets, de la radio aussi par la suite. J'en ai fait en 2005, à l'époque que CBL était dans un autre contexte, sur P9 et Sainte-Catherine. Et bien moi, j'en ai fait en 2005. J'avais lancé Aube, la revue, à peu près dans ces eaux-là, en 2002-2003. Et nous, c'est ça, on a eu deux saisons, dans le fond, avec Aube. Ça s'appelait « À l'aube des délits de l'Est ». Et nous, on faisait de l'humour engagé, on arrivait avec des solutions, on réadaptait les textes qui étaient parus dans la revue. Un peu ce qu'on fait aujourd'hui, mais peut-être plus, vu que je travaillais vraiment avec un autre réalisateur, j'arrivais plus avec une chronique, une capsule, avec du matériel. Donc, c'est ça. Je voulais vous partager ça. Je pense que le mentorat, l'inspiration de s'impliquer dans une radio communautaire ou dans une... je vous dirais, dans un projet ou... je pense que le tutorat aussi, si vous avez des idées, si vous avez, je sais pas, vous aimeriez faire un projet, ça vous tente même de vous impliquer dans Aube, je vous lance ça de même. Si ça vous tente, c'est une belle expérience. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui rêvent autour de Aube. Moi puis Guillaume, on appelle ça un genre de système solaire où les collaborateurs réguliers, c'est vraiment des planètes. On a des astres parfois qui passent dans le ciel, des astéroïdes. Des fois, on a un ovni. Ça vient de passer, puis la personne, on n'en entendra peut-être plus jamais parler, mais ce que la personne va ramener, autant pour nous, pour les auditeurs, mais pour la personne qui va ramener le projet de front, je pense que c'est très intéressant. C'est quelque chose d'assez unique, c'est un peu une pédagogie de projet, de donner une idée, tu sais, OK, j'ai une idée de capsule, j'ai une idée d'entrevue, j'ai une idée de reportage, j'aimerais ça faire de la radio, jouer à venir faire de la radio. Nous, on prend ça comme un jeu. Bien sûr, tous les artisans de CBL, il n'y a personne qui est rémunéré ou à part quelques employés de la CBL, mais tout le monde en général fait ça avec leur cœur. Et par exemple, au Midi Libre, je vois beaucoup de gens qui gravitent autour, des journalistes en devenir, des gens qui font des stages, des stagiaires ou des gens qui veulent chercher un diplôme, viennent passer du temps au Midi Libre. Eh bien, nous, ben, c'est ça, on vous invite, que ce soit si vous faites du théâtre, si vous voulez faire de la publicité dans votre vie, vous voulez faire, je sais pas, vous voulez être journaliste, des entrevues, qu'importe votre projet, Aube, c'est quelque chose d'assez inclusif. On est capable, de notre côté, je trouve que c'est quand même quelque chose d'intéressant de dire, OK, on est capable de rassembler. Je pense que c'est un média qui est rassembleur. CBL, il y a tellement d'émissions différentes. Vous allez sur CBL715.com, sur / programmation. Il y a vraiment, vraiment des émissions de très haute qualité là-dessus. Je vous invite à vous abonner à des balados, en écouter quelques-uns, voir si c'est le genre d'émission qui vous intéresse. Proposez, je vous dirais, aux réalisateurs, des capsules, des chroniques, whatever, ce qui vous intéresse. Moi, je suis certain qu'il y a moyen de faire des beaux partenariats. Puis en même temps, ben, je lance ça à tous les autres artisans de CBL qui nous écoutent, si c'est quoi. Ça vous tente de, juste pour vous entendez quelque chose, un de vos collaborateurs pond un reportage ou une entrevue. J'aimerais ça participer dans Aube. Nous, on peut faire le revamper. C'est certain qu'on peut rajouter de la musique, un montage, etc. Mais sinon, on peut aussi juste la passer telle qu'elle. Faire des liens, je pense faire des partenariats avec d'autres émissions. Puis, d'ailleurs, notre but au départ, quand on a décidé de transformer la revue en une émission de radio, c'était pas juste pour être publié directement à CIBL. On pensait aussi diffuser notre émission à travers le Québec, même à travers la francophonie, parce qu'on n'a pas froid aux yeux. On a déjà déposé notre émission de radio à Québec, à Sherbrooke, à différents endroits à travers le Québec. Puis j'ai des collaborateurs aussi comme Jean-Baptiste que vous avez entendu tout au long de l'été. qui est à Marseille, qui lui va le déposer notre émission à Radio Grenouille à Marseille, une autre radio communautaire intéressante. Je les ai mis à Paris aussi, etc. Donc, peut-être, qui sait, peut-être que notre voix, votre voix, pourrait peut-être être aussi diffusée un peu partout au Québec. Tranquillement, je pense que ça pourrait ça, non seulement stimuler une réflexion, mais prendre, tu sais, dans le fond, de faire la révolution, ni plus ni moins. Je pense que c'est ça. C'est une révolution dans les consciences, une révolution dans les façons de penser. Je pense que c'est important de mettre un contrepoids aux radios poubelles ou autres trucs, des fois, qu'on entend dans les radios et que finalement, c'est pas nécessairement de la très très haute qualité, même parfois ça vole plutôt bas. Mais je pense que c'est important d'avoir une espèce de contrepoids. Puis je pense que ça n'en tient qu'à nous de nous impliquer dans ces stations de radio, dans ces magazines, dans ces revues, dans ces projets-là. Bref, je vous invite, ça vous tente. Vous allez bien.
Tonnelier, plâtrier, vigneron, maréchal ferrant, cellier, bottier, jardinier, pâtissier, tailleur de pierre ou métallier, charpentier de marine, ces métiers ne vous disent peut-être pas grand-chose. Vous pouvez devenir plâtrier ou plombier en suivant l'apprentissage traditionnel, mais vous pouvez aussi appartenir à un corps d'artisans d'élite, les compagnons du devoir. En termes d'apprentissage, le compagnonnage est à la fois une école, une manière de vivre autant qu'un corps professionnel d'élite. Ordre français ancré dans une tradition datant du Moyen-Âge, date des premiers écrits qui en parlent, et auréolé de secrets, les compagnons surfent largement sur l'actualité. Ils sont porteurs d'une tradition héritée de l'âge d'or des cathédrales au XIIe siècle et se sont adaptés parfaitement aux nouveaux outils de la modernité. L'ordre met en avant le transfert de connaissances entre maître et élève, un apprentissage teinté de respect et de motivation à toute épreuve. Après être tombé en désuétude en même temps que l'artisanat durant la grande époque de l'industrialisation au début du XXe, les compagnons sont aujourd'hui réputés partout dans le monde pour l'excellence de leur travail et leur discipline. Un compagnon menuisier pourra par exemple autant travailler en design de meubles que sur des escaliers en bois noble ou sur des installations intérieures de bateaux. Toute personne peut devenir compagnon. Les jeunes avant 15 ans entrent dans la corporation comme apprentis, mais il est possible aussi d'en faire partie lorsque l'on possède déjà une formation et que l'on souhaite se spécialiser. Depuis quelques années, les filles peuvent même devenir compagnons. Le jeune élève est déclaré aspirant compagnon lors d'une cérémonie spécifique. Il reste en moyenne 4 ou 5 ans dans l'école et doit effectuer un tour de France qui est la marque de fabrique de l'ordre. Il est envoyé dans plusieurs villes de France et même de l'étranger, chez des compagnons de carrière et loge avec d'autres aspirants dans des maisons à la discipline stricte et gérées par une mère, une maman qui gère l'ensemble et qui pendant longtemps était la seule femme présente chez les compagnons. Le voyage fait partie intégrante de l'apprentissage puisqu'il suppose ouverture, tolérance, complémentarité des techniques et richesse des échanges. À la fin de son apprentissage, l'aspirant effectue son chef-d'œuvre. Ce chef-d'œuvre est examiné par des compagnons confirmés, une œuvre représentant le savoir-faire accumulé pendant ces 5 années d'apprentissage. Lors de la cérémonie dite de réception, son chef-d'œuvre est examiné et il devient alors officiellement compagnon. Une fois devenu compagnon, il continue son tour de France et doit encore un minimum de 3 ans à l'ordre. Les compagnons reçoivent beaucoup durant leur formation et le retour est vécu comme un juste droit, un devoir, le devoir de transmettre aux autres. Les valeurs essentielles du compagnonnage sont le travail, évidemment, mais aussi l'investissement, la collaboration, la solidarité et la droiture, et ce, au quotidien. Le compagnonnage forme davantage que des bons ouvriers. Le but est de former des hommes bons, des hommes de qualité. Lors de la cérémonie de la réception, le chef-d'œuvre est examiné dans ses détails techniques, oui, mais l'individu est lui aussi jugé sur son éthique et son comportement durant toute sa formation. La terminologie utilisée pour décrire le mode de vie des aspirants est largement ancrée dans une tradition séculaire et on respire au quotidien un passé prestigieux qui renforce la fierté d'appartenir à cette communauté. Si vous souhaitez imaginer une cérémonie de réception, pensez rituel, grande toge et protocole. La fierté du compagnon confirmé est proportionnelle à la beauté des chefs-d'œuvre alors élaborés. Il n'est que de voir la beauté d'un travail de serrurier d'art ou d'un couvreur qui taille les ardoises une par une suivant une technique ancestrale. Ces artisans d'exception forment l'élite de l'artisanat et travaillent parfois sur des chantiers peu communs. Par exemple, le charpentier naval qui travaille sur le bateau de l'Hermione, qui est une reproduction d'un ancien trois-mâts datant du XVIIIe siècle et qui a été refait suivant les techniques originelles avec tenons mortaises et clous moulés pièce par pièce. On pense aussi aux tapissiers décorateurs qui effectuent des tentures et des rénovations de fauteuils pour les châteaux ou les palais. Ou bien on pense encore à l'ébéniste qui est capable de sculpter le cadre d'une harpe. Être compagnon garantit l'embauche puisqu'ils sont convoités par toutes les entreprises. Devenir compagnon n'est pas fait pour tout le monde cependant. Celui qui n'aime pas la discipline ou le sentiment d'être lié à une communauté se sentira vite étouffé. Cependant, le compagnonnage est encore aujourd'hui une méthode d'apprentissage qui lie des ouvriers d'expérience à des aspirants très volontaires et fiers de leur savoir-faire. C'est d'ailleurs cette transmission qui a valu en 2010 au compagnonnage d'être reconnu au patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO en tant que réseau de transmission des savoirs et des identités par le métier. Pour terminer, j'aimerais citer la doctrine du compagnonnage « Ni s'asservir, ni se servir, mais servir ».
Texte et narration, Aurélie Subercico.
Il a peint des taches. Hier, sans rancune, les ongles de fils étaient acérés, les cris stridents, l'équilibre incertain. Mon fils avait le petit fil tordu. On a vu les conséquences de certaines caractéristiques de l'autisme dans le tapis. Il y a de ces matins où, malgré les horaires visuels et la constante volonté, l'anarchie domine. En fait, nos matins ressemblent rarement à une pub de Nutella. Pas de sucre, pas de peanut, pas de poésie lichée, ni de maman sans miettes. Une heure happée par la routine évresse d'habillage, les prises de lutte qui s'achèvent avec de la pâte à dents aux cerises dans le brushing. Mais déterminé à arriver à l'heure à l'école, on a pacté la famille puis on l'a jeté dans la Lisette mobile, aka aussi connue sous le nom de notre voiture. Le Boupi, fils 2, errait lui en cavale parmi les agendas et les projets. Fils 1, sans mots, jugea que le moment était idéal pour un affaissement anxieux. Nos intentions étaient sans effet. Des parents dans une flaque d'amour, pas de pogne. En moins de temps qu'il ne faut pour lever un bras, trois faces, dont la mienne, ont hérité des égratignures. Mon fils, à l'école, a blessé des amis. Nous avons apaisé le tigre, géré les conséquences et formulé des pardons. Des petits humains, aimants et ouverts mais attristés, se tenaient toutefois toujours devant nous. Avec l'adorable enseignante, Isabelle, c'est son nom, on a choisi d'ouvrir le dialogue. On a profité de notre présence pour permettre aux enfants de témoigner de leur vécu, de poser leurs questions, d'exprimer leurs émotions, de regarder, de trouver le positif et de réfléchir à des possibles. L'expérience, la rencontre était confrontante mais constructive. Éjecté de la classe au moment où fils le suggérait en langage non-verbal très, très efficace, j'ai laissé ma journée respecter ses deadlines et le temps a filé. En fin d'après-midi, il y a une photo qui apparaît dans ma boîte courriel. Il a peint des taches. Vois comme il est beau. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Émue, je réponds à l'auteur. Je réponds à Isabelle. Cet être engagé qui ne tient rien pour acquis et qui rend tout possible. Tout est inévidence. Nous doutons, nous essayons. Je grince, mais on persiste. Au moment de conclure mon mercredi, dans le noir du presque jeudi, je ziote une dernière fois ma boîte courriel. Et un dernier petit mot m'attend sagement. Annick, moi aussi je suis maman. Aujourd'hui, il a peint des taches pour tous ses amis. Et les amis ont ensuite créé des œuvres à partir de celles-ci. Ils en feront un livre pour apprendre à compter aux enfants de maternelle et vont aussi le remettre à Maëlle à la suggestion de Philippe, un ami. Bref, Il a peint des taches et c'est un projet à suivre. Et ma journée, finalement, dans le noir, s'est conclue toute seule. Pas d'effort. Comme une grande. Lucide et reconnaissante, j'ai dormi en répétant « merci, merci, merci encore », avec la face liquide. L'inclusion n'a rien d'évident. Et sa beauté, comme la créativité, émerge dans les contraintes et les défis.
Texte et narration, Annick Daigneault.
Oubliez le SRAS, oubliez la grippe espagnole ou le flux coréen. Un mal encore plus terrifiant menace la Terre entière. Même le virus du Nil peut aller se recoucher. Écoutez bien, ce message s'adresse à toute la population. Prenez garde au virus du nombril. Personne n'est à l'abri. Les jeunes, les vieux, les ados, les pauvres et même les riches. Le virus du nombril s'attaque à tout le monde, sans pitié.
Bien que très ancien, le virus du nombril infeste rapidement tous les continents. Cette épidémie sans précédent met en danger la santé des villes, des campagnes et détruit même l'environnement. Une étude a démontré que les baby-boomers, les nouvelles générations, ainsi que les riches bourgeois sont plus sujets à contracter le virus. Mais allons interroger un scientifique spécialiste du virus du nombril, le Dr. Me, Myself and I de Zurich, en Suisse. Docteur, expliquez à nos auditeurs en quoi consiste le virus du nombril.
Eh bien, bonjour. Ce virus est très dangereux pour plusieurs raisons. Bien que nos laboratoires de recherche tentent de l'étudier, nous n'arrivons pas encore à comprendre comment il fonctionne. Mais il s'attaque aux individus en les centrant sur leur nombril. Les gens affectés par le virus agissent très souvent de façon égoïste et veulent à tout prix combler tous leurs besoins. C'est d'ailleurs le virus du nombril qui est à l'origine du célèbre mouvement américain Sex, drogue et rock'n'roll. Et oui, tous les comportements égoïstes de bas instinct sont engendrés par le virus du nombril.
Mais c'est atroce, docteur! Comment reconnaît-on les personnes touchées par le virus?
Eh bien, les gens affectés ne pensent qu'à eux et n'hésitent pas à utiliser leurs amis, leur famille, leur entourage pour arriver à leur fin, qui sont le plaisir, la gloire et le pouvoir. Parmi les effets secondaires de la maladie, nous retrouvons le syndrome de la princesse ou du prince, le complexe de la superstar et toutes les addictions au sexe, à la drogue et à l'argent. Le plus triste, c'est que les malades du nombril n'hésitent pas à faire du mal à quiconque pourvu qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent.
Ce n'est pas très rassurant, docteur.
Eh non. Malheureusement, le virus se répand à une vitesse fulgurante et frappe partout. Nul n'est à l'abri.
Merci, docteur. Vous nous tiendrez au courant.
Ben, y a pas de quoi.
Soyez très attentifs. Si vous connaissez quelqu'un dans votre entourage qui est infecté par le virus du nombril, évitez tout miroir, fermez la télévision et évitez tout contact avec la culture états-unienne. Il faut arrêter le cauchemar.
Vous êtes toujours à l'écoute de Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Plus tôt en début d'émission, nous avons entendu une création d'Annie Schneider du nom de « Amour, éducation et standardisation ».
Le mentorat à CIBL, l'expérience de Philippe Laramé.
Un reportage sur le compagnonnage d'Aurélie Suberchico.
Il a peint des taches, d'Annick Daigneault.
Et juste avant la pause, le virus du nombril, une capsule diffusée dans l'émission à l'aube des Délitless à CIBL en 2005 par Frère Ours et moi-même.
Si vous avez manqué la première partie, toutes nos émissions vous sont offertes en balado et peuvent être téléchargées directement via laplumedefeu.com ou le cibl1015.com.
À venir dans la deuxième partie, une entrevue avec Nico, un jeune homme très allumé qui nous parle d'éducation sur un thème musical de Star Trek.
Geneviève Fortier, qui nous parle du lien entre l'enseignant et l'élève.
Une entrevue avec Noémie Glenn, une enseignante à l'école Imagine, école à la pédagogie Waldorf dans les Laurentides.
Et pour l'instant, place à Hommage à l'homme violent.
Mark est un musicien de rue. Il vit dans des chambres louches, des lieux miteux et se retrouve souvent dans la marbre. Il vit avec son cœur, une paire de chaussures, quelques vêtements et son violon. Mark est une bonne personne, joyeux et passionné. Il joue sans relâche, des heures durant et même sous la pluie. Il est semi-voyant, en fait, il est presque aveugle. Quand en échange de ses notes inlassables, on lui donne un peu d'argent, il ramasse tout rapidement et ne laisse jamais briller ses pièces dans son caisse fermée et usée. Il est trop habitué à se faire voler. Et il continue, sans répit, les yeux tournés vers l'intérieur à faire chanter son précieux et vibrer sa passion. Quand on lui demande candidement « Pourquoi tu joues dans la rue, Mark? » Il répond avec un sourire qui s'achète nulle part. « Parce que j'aime ça! J'aime ça, jouer du violon! » Alors aujourd'hui, alors qu'il joue encore sous un ciel intermittent bonheur-malheur, mon fils s'est approché de Mark. Il a offert quelques pièces et ils ont fait connaissance. Sans a priori, sans vraiment se voir, ils ont jasé, juste jasé. Puis surprise! Mark a soudainement tendu son violon à ma petite Utopie de 3 ans, puis durant 20 minutes, il a prêté ce qu'il possède de plus précieux. La seule chose à laquelle il ne tienne vraiment, il a enseigné à Fils 2 comment tenir et glisser l'archet sur les cordes restantes de son instrument. Je suis restée assise, à quelques pieds d'eux, et j'aurais fait confiance. L'homme violon a aujourd'hui enseigné bien plus que la musique. La bonté n'était pas de payer Mark, mais de recevoir autant avec autant de générosité d'un homme qui ne possède que ce violon qui a tout vu, qui a tout vécu. Je sens aussi que mon fils a ressenti que la passion est moteur, de toutes. Que cette passion certitude qui te part du vibrant peut être suffisante pour te garder malgré toute la marde que la vie peut te garrocher, envers et contre tous, vivants, divers et ensemble. Est-ce que oui? Gratitude. Gratitude sur le bitume.
Texte et narration, Annick Daigneault.
La philosophie Waldorf, on va dire que c'est fondé par Rudolf Steiner. Rudolf Steiner, c'est un chercheur et un philosophe du début du 20e siècle qui a fondé ce qu'on appelle l'anthroposophie, qui était vraiment à contre-courant dans la période de la Première Guerre mondiale où tout s'en allait vers la recherche matérialiste après les révolutions industrielles et tout. Et Steiner a fait émerger le courant peut-être plus humaniste. Donc, la pédagogie qui était une réponse à ce que l'enfant avait besoin, qui prenait conscience de son développement pédagogique, mais aussi de son corps et aussi de son cœur, ses émotions et son intellect. Oui. Alors, la pédagogie Waldorf est quand même très sérieuse. Les professeurs font une formation supplémentaire après le bac en enseignement de 3 ans. En formation Waldorf pour, premièrement, se transformer comme personne et devenir un instrument plus artistique pour amener l'éducation. Il va aussi être quelqu'un qui va aimer découvrir. Et donc, on apprend à de vraiment connaître, de faire les expériences d'une manière lente et approfondie. Et comment on peut approfondir la science pour vraiment sentir qu'on connaît notre monde.
Bonjour, je m'appelle Noémie Glenn et puis j'habite dans les Laurentides depuis 17 ans. Je suis consultante, professeure, fondatrice et présidente du CA de l'École Imagine depuis le début, non, depuis 6 ans. Steiner était un scientifique et un chercheur. Donc, c'est juste qu'il a compris qu'il ne faut pas être trop dans l'intellect, trop jeune. Donc, l'approche scientifique va arriver déjà, on va dire, à partir du jardin d'enfants, où est-ce qu'on va jouer dans la nature, apprendre la gravité, le mouvement, la lumière, toutes ces choses-là, le son. On fait aussi beaucoup d'expériences, mais tout est lié à la nature, le dehors, rentrer dans la classe, mais pas intellectuellement décoder qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a beaucoup de choses qui commencent avec une pensée scientifique, mais pour y aller graduellement, où ils font les expériences et aussi ils font les dessins artistiques. Et ça approfondit l'expérience scientifique. Puis je dirais pour les mathématiques, c'est très fort dans les écoles Waldorf. On commence déjà en première année. Et ça, c'est pour moi, les mathématiques vont en pair avec tout ce qui est artistique et les langues, bien sûr. On suit quand même un curriculum très, très approfondi que Steiner a développé, qui part de la petite enfance jusqu'en 12e année. Les premières 7 années, il est imitateur de son professeur. Et donc, il apprend par imitation et en se construisant. Deuxième septaine, c'est tout ce qui est le volet artistique. Toutes les grandes fresques de la civilisation, autant que ça soit même dans la grammaire mathématique, va être faite d'une manière artistique qui va le nourrir profondément et avec beaucoup d'expériences tangibles. Et ensuite, la troisième septaine, à partir de 14 ans, on va dire l'application maintenant, c'est la construction de l'autonomie. C'est pas du tout comme l'éducation régulière, où est-ce qu'on touche beaucoup de sujets un peu légèrement. Là, on y va très creux. Et ce que j'ai vu ensuite des jeunes qui ont fait l'école Waldorf, c'est par toutes ces connaissances-là, c'est comme s'ils ont appris à connaître. C'est appliqué d'une manière où ça respecte les phases de l'enfant. Donc on peut dire que c'est comme la pensée critique du jeune qui est à la fois libre, mais qui est aussi guidé par un prof qui va l'encourager à vraiment accomplir son travail, qui va faire aussi que c'est des jeunes qui restent très motivés, qui sont en bonne santé, qui ont un bon équilibre émotif, mais qui ont aussi le goût de donner, de partager dans le monde.
C'était une entrevue de Marie-Claude Tardy. Comment tu fais pour apprendre, toi?
Ben, je vais à l'école. Mm-hmm. Vu que j'aime ça, c'est comme plus facile à apprendre parce que j'écoute, tu sais.
T'es motivé?
Oui. Comme, j'aime l'école parce que, pour plusieurs raisons. La première, c'est que je joue avec mes amis à chaque jour. Et j'apprends plein de choses, fait que ça m'aide dans la vie de tous les jours. On a une école en forêt, ben on va plus sortir puis apprendre la forêt. On va être pas beaucoup dedans l'école. Puis on va se promener dans la forêt puis on va apprendre les sortes d'arbres ou les sortes de champignons. Puis plein d'autres.
Les plantes comestibles et tout.
Ouais, tout ce qui est dans la forêt. Puis comme comment survivre si t'es comme perdu dedans la forêt. Comme l'électricité, c'est important dans la vie de tous les jours si tu vis en ville. Mais dans le bois, c'est comme pas compatible parce que t'as comme pas de... C'est soit t'as un potager de patates puis t'es branches dedans la patate. Ça marche. J'ai jamais essayé, mais ça a l'air à marcher. Vu que l'acide qu'il y a dedans la patate, ben ça fait de l'électricité.
Si
c'est à rapport avec l'école, comme des maths, les français, l'anglais, mm-hmm. Ben, je vais demander soit à ma prof ou bien à les adultes, là, comme ma famille, proche, mon frère ou mes parents, des personnes comme ça. Puis si à rapport comme contre des jouets que je m'intéresse, ben je vais plus aller sur YouTube avant de poser des questions à les adultes parce que ils regardent pas vraiment ça les jouets vu que ils font travailler puis ils font de la bouffe, t'sais. ils vont magasiner puis c'est probablement rien que ça qu'ils font. Ils regardent puis ils jouent des fois avec leurs enfants puis.
Mais c'est parce qu'on a passé l'âge de ce qui t'intéresse en tant que jeu.
Comment tu trouves ça?
C'est vraiment cool. C'est l'affaire la plus cool que j'ai jamais vue.
C'est pas là, la petite tyrolienne?
Ouais, ben, moi, je connais un petit peu ça parce que à l'école, j'ai fait un genre de projet qui est comme... on avait le choix entre un drapeau qui monte ou soit un ascenseur. Moi, j'ai pris l'ascenseur. Là, quand j'ai entendu le mot ascenseur, il y a l'image dans ma tête avec tous les objets qui apparaissent. Et je l'ai vraiment créé. Et là, présentement, c'est dans ma chambre, sur mon bureau. Fait que ça, c'est comme vraiment cool, les poulies. C'est sans électricité, puis ça marche vraiment, vraiment bien.
As-tu vu la pompe pour l'eau?
Ouais, je l'ai pas vu.
Parce que là, présentement, l'eau, elle part de l'autre côté, elle descend, puis elle remonte jusqu'ici, viens voir.
Oh, cool! Je l'ai entendu parler ça par Nicole, mais je ne l'ai pas vu encore. Comme je vous dis, la ville est comme assez importante dans la vie parce qu'il faut que tu apprends là, parce qu'il n'y a pas d'école dans le fond du bois. Puis si tu apprends là avant de venir dans le bois, ben c'est comme mieux pour toi.
On est mieux outillé quand on arrive en forêt.
Oui, t'es mieux préparé vu que... J'entends l'école, mais c'est dur de choisir comme... Si j'avais le choix entre aller à l'école puis aller comme dans le bois pendant longtemps, t'sais, camper là puis tout, ben c'est très dur parce que j'aime l'école puis l'école, ça sert pour apprendre puis il y a des catégories qui parlent du bois comme des... À mon école, il y a une catégorie science et technologie puis... Il y a des poulies, des engrenages, puis toutes sortes de trucs. Fait que ce serait bon d'aller à l'école pendant un bon bout de temps pour savoir pas mal de choses de nature. Après cela, aller en forêt, puis ça va... Tu vas mieux être... comment je veux dire?
Préparé.
Préparé que si c'est comme tu fais rien, tu vis en ville pendant 10 ans, là, puis tu vas en forêt juste comme ça, t'amènes... presque rien, puis t'es comme, qu'est-ce que je fais ici? Ça, c'est un vélo. Je sais pas, ben, c'est pour faire des smoothies. Fait que, ça marche très bien. Et quand tu roules vraiment vite, ben, ça a de l'air comme si tu faisais de la moto. C'est comme très fun. Et voici une démonstration.
Ça vire pareil, hein?
Comme on fait le vidéo comme si... comme si on parlerait à quelqu'un puis on montrait.
OK.
Fait que c'est live.
Ouais, c'est comme live. Et comme, si on manque des affaires, ben, sur le sel, ben, tu peux poser. Fait que ça, c'est bon. Puis si on oublie, ben, mon frère, Miguel, comme je vous parlais tantôt, ben, il va comme enlever la partie où c'est pas bon. Puis là, il va comme rassembler les deux parties qui sont séparées pour les mettre ensemble. Puis après ça, là, j'ai écouté mon premier vidéo que j'ai fait, puis ça a très bien tourné, je trouve.
Puis c'était quoi le sujet?
Le sujet, c'était les trash packs.
Les trash packs?
C'est comme des petits bonhommes en caoutchouc plein de dégueulasses, là. Mais c'est comme... Ils visent dans les poubelles, mais c'est juste comme... Enfin, caoutchouc, c'est pas vrai. Okay. La plupart des vidéos que j'écoute, c'est des personnes populaires qui font plein de vidéos à chaque jour. Puis je trouve, vu qu'ils font des vidéos à chaque jour, ben, ils doivent avoir du bon matériel pour faire leurs vidéos. Parce que sinon, même si t'en fais plein... Puis le montage est comme noir, puis tu vois pas très bien, mais même dans le noir, tu vois.
ça devient moins intéressant.
Ouais, vu que c'est comme... Tu t'attends à regarder que c'est comme en couleur, tu vois, c'est clair. Puis c'est pas mal ça que j'écoute sur YouTube, des qualités.
Un très joyeux anniversaire à Nicolas Tremblay, qui vient tout juste d'avoir 11 ans. C'était une entrevue de Philippe Laramé, avec la participation de Sophie Claudia Ouellette. Les moments ont été captés durant les vacances d'été à Montréal et sur les terrains de Terravie, dans les Laurentides.
Éduquer, me dites-vous? Pourquoi éduquer quand l'esprit d'un homme suffit à le bâtir dans des sphères aussi hautes que le ciel et ses nuages? Ma foi, être éduqué ne m'a jamais réellement tenté et je préférais durant ma prime jeunesse parcourir les champs et découvrir avec expérience ce que la vie avait à m'offrir. Certes, nous pouvons parler d'éducation champêtre, mais l'éducation en soi dispose de l'aspect sombre et rugueux d'une vieille dame capitonnée dans un corset de toile brun aux pressions difficilement supportables. Éduquer rime souvent avec endoctriner, et quelle que soit la bonté des tuteurs que nous pûmes avoir dans nos jours heureux, ceux-ci furent pour nous comme une voie ouverte vers l'accomplissement de ce qu'ils ne purent devenir. Car voyez-vous, éduquer revient à étendre à l'échelle d'une nation ou des générations les nécessaires dispositions humaines à la progression et à la grandeur. Que ce soit un pauvre homme inachevé souhaitant par transmission élever à l'avance un jeune arbrisseau et lui éviter ainsi les douleurs de l'erreur et de l'ignorance, ou bien une mégère sèche prenant la règle et la loi. Hélas ! La sublime image présentée là n'est que l'utopie de l'éducation poussée au plus clair de son fait, mais elle recèle des parties bien plus ombrageuses. Un bon ami à moi, prêtre de la bonne conscience de son état, éminent esthète et compagnon d'une rare qualité, fut-il lors de nos discussions de quelques soirs plus éduqué que moi ? Il s'assoyait proprement, mangeait sporadiquement et parlait avec tact et délicatesse. Moi, je posais mes fesses sur les chaises à la manière d'un chien, mangeais goulûment, comme si mon heure sonnait dans le quart d'heure, et parlais des mains autant que de la bouche. Après réflexion, il devait l'être plus éduqué. Et moi alors, qu'étais-je, sans la tutelle vénérable de la bienséance et de l'opinion ? Sans aucun doute, un pauvre homme à la recherche de lui-même, perdu certes, mais cependant libre et original dans ma structure, au contraire de mon clérical acolyte. Présent en lui-même comme un bloc immuable, symbole achevé d'une génération bien emmitouflée de politique et d'état de fait. Citer Voltaire ne me plaît guère, mais arranger ces mots me sied à merveille. Je prends conscience aujourd'hui de la valeur de l'apprentissage. L'apprentissage est l'intelligence de savoir par soi-même. L'éducation est l'intelligence que l'on mime à l'idiot.
Bonjour tout le monde. Écoutez, je suis un peu excitée parce que d'ici quelques semaines, je vais entamer ma 15e année d'enseignement. 15 ans, c'est drôle, parce qu'au départ, je voulais enseigner pour rembourser mes prêts. Mais je me suis fait prendre à mon propre piège. Moi, je viens d'une famille d'enseignants. J'en étudie la leçon de vie, vous pensez, beaucoup. En plus, c'est tous des professeurs du primaire, alors j'en ai écouté des petites comptines éducatives, j'ai jamais eu des céréales avec des marshmallows, puis je me suis fait parler comme une attardée très longtemps. Même quand je rentrais la nuit adolescente et que ma mère venait me chicaner sans dentier. As-tu vu l'heure qu'il est? Si ça a de l'allure, penses-tu que c'est signe d'une vie équilibrée? Puis le pire, c'est que moi, je devais pas rire devant cette Roger Moquin féminine. Moi, j'ai voulu faire différent. Je voulais surtout pas enseigner. J'ai voulu être vétérinaire, mais je pleurais quand mes parents tuaient une mouche. J'ai voulu être avocate, mais je pleurais quand le méchant gagnait. J'ai voulu être secrétaire parce que déjà très jeune, j'aimais le café. Et finalement, j'ai voulu être comédienne. Je repoussais l'idée de l'enseignement le plus loin possible, mais finalement, tous les emplois où j'excellais étaient dans le domaine de l'animation, l'intervention, le savoir, l'entraide. J'ai tour à tour été animatrice dans les camps du jour, intervenante de rue, accompagnatrice des enfants avec la trisomie 21, éducatrice et le tout sans aucune formation. J'avais ça dans le sang, on dirait. Après mon DEC en théâtre, une moitié de formation à l'option théâtre et un baccalauréat en art dramatique et en communication, j'ai décidé de faire un bac en éducation. La vérité, c'est que j'aime étudier, puis l'avenir comme comédienne me semblait très sombre en Ontario français. À part jouer une pièce historique dans laquelle je devais hurler « Sauvons mon fort », le français c'est important, il n'y avait pas grand-chose. Moi, j'ai pas eu la piqûre tout de suite. J'ai enseigné dans une école d'art les deux premières années. J'étais cool, j'étais jeune, j'avais des lulus, je portais des salopettes et j'ai eu la chance de monter des spectacles. Mais c'est quand on m'a approché pour relever une école qui était pour fermer ses portes à cause de la violence qui régnait. J'ai vraiment eu la piqûre à partir de ce moment-là. Pour sauver l'école, nous devions mettre sur pied un programme de théâtre et de sport-études. J'y ai enseigné 7 ans et jusqu'à maintenant, ce sont les plus belles années de ma carrière. Je peux affirmer que j'ai fait une différence. Il y a tellement à dire. L'école où j'étais en Ontario français comportait 52 nationalités. Ça, c'est confrontant quand tu viens de Saint-Hyacinthe. Créer une unité au sein d'une école multiculturelle, c'est vraiment un défi de taille. Chacun a sa réalité, ses croyances bien ancrées. Les débats en classe étaient très confrontants pour moi. Je me souviens d'un Djiboutien qui s'était caché pendant un feu d'artifice. Les explosions lui rappelaient la guerre. Je me souviens aussi d'une élève qui m'avait confié en pleurant que sa grand-mère en visite au Canada avait pratiqué sur elle l'excision. J'ai souvenir encore de l'élève qui était en désaccord avec moi parce que j'avais défendu les droits des homosexuels et qui avait mis de la colle sur ma chaise. Mais je me souviens surtout des délicieux soupers multiculturels, de la semaine du carnaval où tout le monde était déguisé en bûcheron, des joutes de soccer sur la neige, chaque pays était représenté, et surtout du tournoi d'improvisation que j'ai organisé. Nous avons fait cet événement quelque chose de grandiose. Tous les élèves ont contribué au succès de cet événement. De voir ces jeunes cités dans les médias de façon positive et de voir la fierté dans leurs yeux fut ma plus grande réussite en carrière. Et quel lien avec l'académique, me direz-vous, si j'ai réalisé une chose à travers les années, c'est que pour éviter le décrochage scolaire, il faut donner des raisons aux jeunes de venir à l'école. Le corps professoral est tellement important dans une école. Si la direction te soutient et que le personnel est trippant, tu vas passer au travers. Une autre observation que j'ai faite, c'est souvent dans les écoles les plus difficiles qu'on retrouve les meilleurs profs. Il faut être un maudit bel humain et être rempli du feu sacré pour passer au travers. En 5 ans à Montréal, j'ai été confrontée à différents types d'élèves. Du programme international à la classe de troubles de comportement, au groupe en CPF jusqu'aux jeunes en théâtre, je me suis beaucoup promenée. La différence majeure entre un ado qui réussit bien et un ado en difficulté d'apprentissage, c'est la suivante. Un ado qui réussit et est motivé n'a pas besoin de créer de lien affectif avec l'enseignant. Il veut simplement quelqu'un qui transmet bien la matière. Un élève en difficulté, tant au niveau du comportement qu'au niveau de l'apprentissage, va s'investir dans sa réussite s'il a un lien significatif avec le prof. Il travaille pour lui, en quelque sorte. Ici, à Montréal, on ne donne pas de permanence aux enseignants et c'est la pire erreur du système québécois. J'ai fait jusqu'ici 8 écoles différentes en 5 ans et ça, c'est seulement en contrat. En suppléance, j'ai fait 50 écoles. On ne comprend pas au Québec que pour avoir un réel impact dans la vie des jeunes, il faut une personne stable, durable, sur laquelle les jeunes peuvent compter. Quand un enfant d'Hochelaga te supplie en pleurant de rester à la fin de l'année parce qu'il a finalement un adulte signifiant dans sa vie, c'est crève-cœur. Après 5 ans à Montréal, je dois avouer que je suis moins motivée pour la rentrée scolaire. Savoir que je n'aurai pas de permanence avant 15 ans encore me déstabilise. Puis faire de la suppléance tous les jours, là, c'est dormir avec l'ordi allumé sur STM tout azimut, toute la nuit. C'est entendre les élèves hurler « Yo gang, c'est une suppléante, party, pra, pra, pra ». Avoir la trollée d'élèves qui veulent sortir de classe, avoir une liste de classes et ne pas comprendre la moitié des noms. Changer de collègue aux 6 mois, recréer des liens, chercher la photocopieuse, ne pas avoir de code informatique et dire au revoir à des élèves à chaque année, c'est difficile à long terme.
Geneviève Fortier est professeure à temps plein et comédienne et écrivaine à temps partiel. La notion de métacognition est ancienne. On la retrouve déjà dans le Traité de l'âme de Aristote. Elle désigne l'activité de l'apprenant à partir du moment où il n'est plus dans l'action, mais bien dans une réflexion, verbalisée ou non, sur cette action. Le 5 juin, c'est le jour de la première diffusion de Aube. Je m'en souviens comme si c'était hier. On se lançait dans l'aventure avec nos idées, nos valeurs, nos idéaux et nos utopies. On savait ce qu'on voulait essayer de faire, mais on n'était pas sûr de comment faire. On avait environ 200 minutes de capsule qu'on avait déjà préparées. On espérait que ça puisse toucher quelqu'un. On prenait pour acquis qu'on était plusieurs à vouloir entendre parler de ce qui se passe d'une façon différente, en mettant d'autres acteurs de l'avant puis en prenant d'autres angles de traitement. On n'avait aucune idée de si ça allait marcher.
Sur les ondes de CIBL 101.5 Montréal, vous écoutez Aube, une émission présentant des initiatives qui cherchent à réaliser une autre vision du monde.
Aube, épisode 1. Faut croire que ça tenait la route. On voulait prendre action, on a fait 12 épisodes de 1 heure, 182 entrées sur SoundCloud. Comme on est beaucoup à essayer de changer le monde, on voulait présenter des initiatives. On a parlé de plus de 100 projets qui rassemblent des milliers de bénévoles. On voulait rassembler. On a collaboré avec des dizaines de personnes. Des auditeurs nous ont partagé des articles, des comédiens se sont prêtés au jeu. Une équipe de partenaires solides ont produit des capsules extraordinaires. On te propose de te rassembler autour de valeurs humaines, écologiques et collectives. De prendre action simplement par une prise de conscience. Simplement par une prise de conscience. Pour ma part, j'ai pris conscience de beaucoup de choses cet été. D'abord, de mon besoin de communiquer avec vous qui m'écoutez, qui que vous soyez. Ensuite, que mes valeurs doivent avoir une incidence sur ma vie. Que plusieurs actions sont possibles, à la portée de n'importe qui. J'ai choisi la radio parce que c'est vraiment mon médium préféré. J'aurais pu aussi choisir de lire un livre à un enfant. Je ferai peut-être ça un jour. J'ai appris à nuancer mon propos, à travailler en collaboration, à ne pas le prendre personnel, à faire une place pour tout le monde. Vraiment, l'impact le plus marquant de mon passage à Aube, c'est sur ma méthode de travail. Moi qui savais rien faire avec une console, ben aujourd'hui, je sais un peu plus. C'est fou comment c'est important tout ça. Toutes ces organisations bâties pour transmettre aux gens. Je pense à CIBL, mais aussi à d'autres exemples, plus ou moins formels, comme le Wapikani Mobile, les cours de rap dans les écoles primaires de Montréal-Nord, l'ambiance qui règne dans un skatepark où tout le monde s'enseigne des trucs, quand ta cousine plus vieille t'apprend à lire, n'importe quelle entreprise d'insertion sociale, les assos étudiantes, les événements comme l'école d'été de l'Institut du Nouveau Monde, les cercles des fermières, et tous ces lieux de transmission du savoir qui visent à faire apprendre, à faire comprendre, pour qu'on puisse faire soi-même.
C'est ce qui conclut la saison de Aube. J'espère que vous aussi, vous avez appris quelque chose avec nous.
Quant à nous, notre aventure continue. J'en profite pour réitérer notre invitation quotidienne. Suggérez-nous vos idées de capsules et partagez des articles à découvrir sur la page Facebook de l'émission. L'émission est et sera toujours le fruit des collaborateurs du moment.
Dans cette émission, vous avez entendu les œuvres de Guillaume Lambe, Philippe Laramé, Annie Schneider, Aurélie Superchico, Annick Daigneault, Marie-Claude Tardy, Jean-Baptiste Gardarin et Frère Ours.
À la réalisation, au montage et à la mise en onde, Philippe Laramé et Guillaume Lambe.